sang, une crise sanitaire qui n'est pas terminée et une crise économique et sociale qui commence.
L'emploi, la relance et la transformation du système de santé comme priorité. Comment ? En dialoguant et en rassemblant la feuille de route de Jean Castex, le nouveau Premier ministre qui continue de plancher sur la composition de son gouvernement.
La mort d'une femme gendarme hier soir près d'Agen. Elle a été renversée par un véhicule. Le conducteur est en garde à vue.
Dans ce journal aussi, la lutte contre l'habitat indigne et la rénovation des écoles. Les attentes des Marseillais après l'élection hier de Michel Rubirola. Ils veulent du changement.
Et à l'heure des vacances, de toute évidence, les Français sont en quête de grands espaces pour l'été. Des Alpes aux Pyrénées, les stations de montagne font le plein.
C'est vrai qu'on a tous en tête des mois de juillet qui démarrent toujours lentement jusqu'au 20 juillet. Souvent, c'est assez poussif. Et là, on a un démarrage assez marqué.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est donc l'information de la nuit, la mort de cette gendarme de 25 ans dans le Lot-et-Garonne.
Elle s'appelait Marion Dubreuil. Le drame s'est joué hier soir à Port-Sainte-Marie, à l'ouest d'Agen.
Oui, et le drame s'est noué en trois temps sur la route avec un premier refus d'obtempérer peu avant 21h. Un chauffeur refuse de se soumettre à un contrôle routier classique de la gendarmerie sur une route départementale de la commune de Pont-Sainte-Marie. Le conducteur poursuit sa route vers Agen et à la vue d'un barrage de la police nationale, il fait demi-tour. Les gendarmes en sont immédiatement avisés et déploient alors une herse avec des pics pour intercepter le véhicule. Pour éviter de crever, le chauffeur fait un écart, sort de la route et percute alors Mélanie, cette gendarme de 25 ans, qui se trouvait, d'après une source judiciaire, en sécurité sur le bas-côté. La jeune femme, gravement blessée, est décédée sur place. Le conducteur n'a pas eu le temps de redémarrer, il a été interpellé dans la foulée. Il est connu, des services de police et de gendarmerie pour stupéfiants. Il est actuellement en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie d'Agen. Nous n'en savons pas plus pour le moment sur son profil, ni sur ce qui a motivé ces trois refus d'obtempérer auprès des forces de l'ordre.
Les précisions donc de la reporter d'Europe 1 Marion Dubreuil, qui n'est pas bien sûr cette malheureuse gendarme. Et sur Facebook, la gendarmerie du Lot-et-Garonne s'est dite, je la cite, meurtri.
L'action par les territoires, le mode opératoire du nouveau Premier ministre Jean Castex qui s'exprime ce matin dans le journal du dimanche, réaffirmant sa volonté de rassembler et de mobiliser le plus largement possible. Une méthode qu'il a revendiquée déjà hier après-midi lors de son premier déplacement sur un site industriel de l'Essonne.
On voit bien sur le plan de la méthode que par la base, c'est l'action concertée de ces collectivités avec l'État. Je tiens et j'assume, surtout en période de crise, on a besoin de l'État, mais d'un État qui sait se positionner, c'est vers ces solutions les plus territoriales, où ils savent agir ensemble au-delà de leurs opinions politiques au service de l'emploi et de l'intérêt général. C'est, vous le comprenez bien, encore plus nécessaire alors que nous traversons une crise sanitaire qui n'est pas terminée et une crise économique et sociale qui commence.
Jean Castex qui entend conclure la semaine prochaine le Ségur de la Santé, il le dit dans le journal du dimanche ce matin, autre ambition, régler à court terme le dossier des retraites avec l'espoir d'un compromis.
Tout cela peut sembler tout de même extrêmement optimiste. Le Premier ministre qui doit encore aussi constituer son équipe gouvernementale, le plus vite sera le mieux, c'est ce qu'il dit ce matin. Pour Europe 1, Jean-Rémy Baudeau a lu avec beaucoup d'attention cette interview.
Pour le moment, Jean Castex est un Premier ministre sans gouvernement. Depuis sa nomination vendredi, il multiplie les consultations, les rencontres. Hier, avant de déjeuner avec le président, il a par exemple reçu plusieurs ministres, dont Jean-Michel Blanquer et Didier Guillaume. Le futur casting gouvernemental doit coller à la nouvelle ligne d'Emmanuel Macron, autour de plusieurs grands chantiers comme la relance économique, la transition écologique, le grand âge ou la jeunesse. Ce gouvernement devra être aussi paritaire et respecter les équilibres politiques de la majorité. Il se murmure que la liste des ministres est quasiment bouclée. On met les bouchées doubles, promet Jean Castex dans le JDD ce matin. Mais dans un tel exercice, le puzzle peut être à revoir si l'une des pièces devait être changée, après par exemple les vérifications fiscales ou de conflits d'intérêts. Un nouveau gouvernement dont l'annonce pourrait par ailleurs se faire en deux temps. D'abord, une équipe resserrée, des ministres plutôt très politiques en charge des grandes priorités du président. Une première liste qui pourrait être complétée d'ici quelques jours par des secrétaires d'État en charge de dossiers précis.
Voilà, réponse globale donc dans les prochains jours. Matignon qu'Edouard Philippe a quitté vendredi. Dès hier, il était au Havre pour préparer son premier conseil municipal qui se tiendra tout à l'heure à 10h.
À travers tout le pays, donc, les communes sont en train d'en finir avec un feuilleton électoral qui, au final, aura duré presque 4 mois. Un dénouement qui n'en a pas été moins haletant à Marseille. Hier, il a failli 2 tours de scrutin et 4 heures d'interruption entre les 2 tours à Michel Rubirola pour être finalement désigné maire de Marseille. Récit échevelé de Nathalie Chevance pour Europe 1.
Après des heures de négociations de dernière minute, Michel Rubirola réussit finalement à construire une majorité absolue et à rallier au printemps marseillais sa rivale d'hier, Samia Ghali. Une prouesse pour Madame la maire, comme elle veut qu'on l'appelle, médecin des quartiers populaires qui découvre la politique et la fonction.
Je suis une femme engagée, une femme qui aime sa ville, une femme autonome, une femme libre et une femme qui a envie que ça change pour les Marseillaises et les Marseillais. Et une femme qui aime travailler en équipe, qui ne s'enfermera pas seule dans son bureau. Je crois qu'on arrivera à quelque chose de formidable. Quand il y a la volonté, on va pouvoir déplacer les montagnes.
Et le premier acte de la nouvelle majorité, lancer un audit financier sur les comptes de la ville, sur les écoles. Les attentes des Marseillais sont énormes.
Pour le moment, c'est l'habitat, les écoles. Vous avez vu dans quel état sont les écoles à Marseille ? C'est une honte, les écoles. La priorité, c'est l'enfant, le logement. Il faut qu'elle fasse ses preuves. J'ai de l'espoir, mais c'est plus que de l'espoir, madame.
On attend surtout une fracture complète avec ce qui s'est passé. Avant, c'était que pour les riches, où les bâtiments, ils ont dû tomber pour qu'on puisse se réveiller. Ce qu'on attend, c'est d'abord un réveil social. Par exemple, ça serait commencer à reconnecter un petit peu avec les quartiers, les réintéresser à la politique.
Et en attendant de pouvoir réduire la fracture sociale, la fête a été belle sur le Vieux-Port. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Élection aussi hier des écologistes Grégory Doucet à Lyon et Jeanne Barseguian à Strasbourg, cette dernière qui a déclaré l'état d'urgence climatique pour sa ville. En région parisienne, situation inédite. Le maire communiste sortant de Vitry-sur-Seine, élu dimanche dernier, a été battu par un de ses colistiers lors du vote du conseil municipal. Il dénonce un putsch. Son successeur, lui aussi issu du PC, défend une nécessité de changement.
Aux États-Unis, voici un invité très inattendu dans la course à la présidentielle de novembre. C'est le rappeur milliardaire Kanye West, également époux de Kim Kardashian. Il s'est déclaré cette nuit candidat dans un tweet, lui qui pourtant avait soutenu il y a 4 ans Donald Trump.
Le président américain qui, de son côté, minimise une nouvelle fois la crise sanitaire dans son pays. Plus de 43 000 nouveaux cas de coronavirus pourtant ces dernières 24 heures. Mais dans un discours depuis les jardins de la Maison-Blanche à l'occasion de la fête nationale, Donald Trump s'est félicité malgré tout des progrès dans son pays dans la lutte contre l'épidémie. Notre stratégie, dit-il, fonctionne bien.
La suite de ce journal. Dans un court instant, nous partons en altitude, ici, en France, pour les vacances. Et puis ensuite, nous redescendons en Italie, au ras de la mer, dans les rues de Pompéi, pour une chouette visite. A tout de suite.
8h08 sur Europe 1.
Europe 1, Bernard Poiret. Europe 1.
Retour de l'actualité avec Marion Calais et Bernard Poiret.
Marion, on peut se poser la question comme ça. Est-ce que c'est pour oublier la crise sanitaire et les longues semaines passées à la maison? En tout cas, de très nombreux Français, semble-t-il, optent cet été pour la montagne.
Oui, l'altitude et le grand air, la montagne était déjà ces dernières années la deuxième destination préférée des Français derrière la plage et devant la campagne. Une tendance donc qui se confirme pour Europe 1, Carole Ferry.
Les professionnels de la montagne respirent. Ils n'avaient quasiment aucune réservation il y a encore 3 semaines. Aujourd'hui, le taux de remplissage est équivalent à celui de l'été dernier, avec des séjours plus longs. Certains prévoient même une meilleure saison que l'an passé. C'est le cas de Tignes ou des Arcs dans les Alpes. Pareil à Péragude dans les Hautes-Pyrénées. La station a fortement développé ses activités estivales depuis 2 ans et affiche un taux de réservation inespéré pour les jours qui viennent, selon son directeur Laurent Garcia.
Qu'on peut constater sur la première semaine de juillet, c'est-à-dire à partir de samedi, cette fin de semaine, 3 fois plus de personnes qui ont réservé que l'an dernier, avec un taux d'occupation des appartements de 60% contre 20% l'année dernière. Il en est de même sur la deuxième semaine de juillet. C'est vrai qu'on a tous en tête des mois de juillet qui démarrent toujours lentement, jusqu'au 20 juillet, souvent c'est assez poussif. Et là, on a un démarrage assez marqué.
Ce qui se réserve le plus, ce sont les maisons et chalets individuels. Pareil pour les résidences de tourisme. La fréquentation des hôtels, en revanche, est en baisse de 50%. Enfin, la montagne espère également profiter cette année d'une belle arrière-saison avec le Tour de France reporté au mois de septembre.
Vive la montagne, Marion Calais. Elle, en revanche, risque de ne pas avoir la cote cet été. Je veux parler des grandes villes qui pourtant reprennent vie peu à peu. À Paris, par exemple, le Louvre va rouvrir ses portes demain.
Alors que le Grand Palais, lui, a ouvert cette semaine, proposant notamment cette exposition consacrée à Pompéi. Oui. Une exposition qui, à grand renfort de technologie, fait revivre la ville jusqu'à L'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Visite avec Diane Chenouda pour Europe 1.
Là, on commence à entendre les grondements.
Pompéi, comme si on y était. Au pied du Vésuve, qu'on voit comme s'il était là sous nos yeux. Avec en ombre chinoise, des habitants qui marchent dans la rue. Et tout à coup, une pluie de pierres et ces nuages de cendre noire envahissent l'espace. L'éruption du Vésuve explose en 3D. Roy Amit dirige le numérique au Grand Palais.
Cette condensée de l'éruption est complètement reconstitution scientifique de ce qui s'est passé réellement. On a parfois l'habitude de représenter l'éruption avec des laves, avec des flammes, avec des feux. C'est faux. L'éruption de Vésuve a été une éruption des pierres ponces, des gaz, des poussières. C'est une vague de poussières très 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 chaude.
On découvre horrifié les moulages des corps des victimes pétrifiés. Et plus loin, les fresques splendides des maisons qu'on n'a jamais vues comme ça.
Parce qu'elles sont vraiment magnifiées, captées en très 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 haute définition. On voit des détails qu'on voit presque jamais à l'œil nu.
Comme si on y était aussi les dernières fouilles des archéologues qui ont permis de découvrir deux nouvelles villas.
Ah, merci beaucoup Diane Chenouda. Allons voir cette exposition Pompéi. Et quand on pourra à nouveau voyager en Italie, allons voir vraiment Pompéi et à côté la ville de Naples, qui est un très très grand moment touristique, historique et culturel.
Un mot de football pour finir avec ce premier match hier entre deux clubs de la Ligue 1, Lyon en amical et sans public, l'a emporté face à Nice 1-0 en Allemagne. Le Bayern confirme sa suprématie, doublé après le championnat victoire en coupe, 4-2 contre Leverkusen, le club qui a maintenant les yeux rivés sur la Ligue des Champions pour peut-être un triplé.
Et puis cet après-midi, le premier Grand Prix de Formule 1 de la saison en Autriche à huis clos. Il me semble que les Mercedes sont sur la première ligne.
Sur la première ligne.
Bon, ça va encore nous faire un truc genre Hamilton, Vettel ou je sais pas quoi, c'est ça ?
Départ à 15h10, Bottas, okay. Le deuxième.
Bottas, pardonnez-moi. Merci beaucoup Marion, vous revenez dans trois quarts d'heure pour le 9h.